Une délégation calédonienne participe au comité spécial de la décolonisation des Nations Unies au Timor oriental. Alcide Ponga y a fait un état des lieux de la situation sur le territoire. La deuxième session d'assises de l'année se termine avec une dernière affaire jugée demain et lundi. L'accusée est une femme, elle encourt 15 ans de réclusion criminelle. Les 11 maires de l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie étaient réunis en Assemblée générale. Ils ont notamment reçu le président du Sénat coutumier, Éloi Gowé. Air New Zealand va reprendre ses rotations entre Auckland et Tontuta. Une rotation chaque samedi dès le 1er novembre prochain. Et puis les sports, le CTOS lance la commission des athlètes, un espace de dialogue dont l'objectif est de faire des propositions et mener des actions au service des sportifs du territoire. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Info Soir pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Alcide Ponga, participe au séminaire du comité spécial de la décolonisation des Nations Unies, le C24, qui se tient à Dili, au Timor oriental. Il s'est exprimé à la tribune pour présenter un état des lieux de la situation en Nouvelle-Calédonie. Elisabeth Noir.
Et c'est bien comme président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qu'Alcide Ponga s'est exprimé. Il a mis en lumière les défis institutionnels et budgétaires auxquels le territoire est confronté et il a dressé un tableau sans concession des violences insurrectuelles de mai 2024. Alcide Ponga explique qu'après la tentative d'ouverture partielle du corps électoral, une frange radicalisée du mouvement indépendantiste réunie au sein de la CCAT a versé dans la violence insurrectionnelle.
Soutenue par des puissances étrangères hostiles aux intérêts de la République française, la cellule a transformé ces manifestations en une insurrection armée, coordonnée et je dirais même préméditée. Le 13 mai 2024, la Nouvelle-Calédonie a basculé dans le quasi-chaos. Pendant plusieurs semaines, l'ensemble de la population de la Nouvelle-Calédonie, sans distinction, je le dis sans distinction, a vécu l'horreur et a subi. Les militants ont pillé, incendié et détruit la Nouvelle-Calédonie.
À cause de ces émeutes, la Nouvelle-Calédonie a connu une régression brutale de plusieurs décennies. Notre territoire traverse une crise économique, sociale, politique et institutionnelle sans précédent, déclare Alcide Ponga, qui parle d'un gâchis historique et qui tient à préciser devant le C24 que toutes les composantes calédoniennes ont été victimes de cette insurrection.
Je pense d'abord à nos concitoyens non-kanaks. Ils ont subi des agressions ciblées, racistes, violentes, dont le seul objectif était de les contraindre à quitter le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Ils ont été victimes d'entraves durables à la circulation sur tout le territoire, et plus particulièrement sur la commune du Mont-d'Or. En tant que président du gouvernement, je souhaite ici dénoncer et condamner toutes ces formes de violence, mais également celles et ceux qui ont alimenté cette haine entre les communautés. Je veux également vous dire, chers membres, que les Kanaks aussi ont été victimes de cette situation, victimes de la terreur imposée dans les quartiers et les villages, victimes des entraves à la libre circulation, victimes de la perte de leur outil de travail, victimes de la diminution des services publics par manque de moyens. Et de ce fait, beaucoup de familles Kanaks sont devenues plus pauvres qu'auparavant. C'est une réalité frappante aujourd'hui.
Par ces émeutes, la Nouvelle-Calédonie est devenue plus dépendante que jamais du soutien de l'État, poursuit le président du gouvernement, qui a conclu cette intervention en évoquant les discussions sur l'avenir institutionnel.
L'objectif de ces négociations est clair. Bâtir un projet qui respecte, d'une part, le choix souverain exprimé par une majorité de Calédoniens de rester français, mais d'autre part également, répondre aux aspirations légitimes d'une partie de la population à davantage d'autonomie, d'émancipation, voire de souveraineté. Ce chemin est exigeant, mais il est le seul qui puisse garantir la paix, la stabilité, le progrès et le retour d'un destin partagé, fondé sur un vivre ensemble.
Et devant le comité de décolonisation, Alcide Ponga a aussi mis en avant l'importance du soutien apporté par l'État, en particulier à travers un accompagnement financier et technique destiné à préserver le fonctionnement des institutions et à favoriser la mise en œuvre de réformes structurelles nécessaires.
Pour les partisans de la France, ce sont ensuite Naya Wateu et Marie-Laure Kewe qui sont intervenues comme pétitionnaires.
Naya Wateu qui a pris la parole pour défendre, a-t-elle dit, la voix de celles et ceux qui en Nouvelle-Calédonie ont choisi la paix et le vivre ensemble au sein de la France. Et elle a évoqué d'abord le processus politique unique que connaît le territoire.
Nous sommes le territoire le plus autonome de la République. 3 référendums d'autodétermination ont été organisés sous votre supervision. Et à 3 reprises, les Calédoniens ont dit non à l'indépendance de manière souveraine, libre et éclairée. Ce choix démocratique doit être respecté.
Et devant le C24, Naya Wateu a également évoqué les récentes discussions sur l'avenir institutionnel.
Notre récent refus d'une indépendance association n'est pas un caprice politique. C'est un choix assumé. en cohérence avec la volonté exprimée par la population. Et il vous faut respecter leur choix. Reconnaître la légitimité du troisième référendum et tenir compte d'une injustice terrible, celle de milliers de citoyens exclus du corps électoral, contraints au mutisme démocratique.
Et à la tribune du comité de décolonisation, Naya Watéou a elle aussi rappelé la gravité des émeutes, leurs causes et leurs conséquences.
Il n'y a pas de prisonniers politiques, mais bien des criminels qui devront répondre de leurs actes. Il est trop facile de justifier cette insurrection comme une réaction à la pauvreté. C'est une lecture paresseuse, injuste et profondément révisionniste. La réalité est plus simple, mais probablement plus dure à entendre. Les milliers de jeunes qui ont saccagé Nouméa et réduit en cendres 3 décennies de développement l'ont fait animer d'une haine terrible, instillée à dessein par des indépendantistes radicaux.
Autre pétitionnaire pour les partisans du maintien dans la France, Marie-Laure Ukaoué, qui s'est exprimée en tant que femme kanak, en révélant qu'on l'insulte quand elle dit que la Nouvelle-Calédonie a toute sa place dans la France. « Mais je ne renierai pas mes convictions », a-t-elle déclaré, « car c'est aussi cela être libre ». Elle a affirmé que la France est aujourd'hui notre plus précieux allié pour garantir notre sécurité, défendre la démocratie et nous aider à reconstruire avec tous une Calédonie apaisée, avant de déclarer « notre combat est un combat pour la paix, pour l'unité et pour la dignité ». Et de souhaiter un avenir où la Calédonie reste cette terre française du Pacifique, prospère, ouverte et forte de ses diversités.
Et notez que les indépendantistes sont représentés à Dili par Rogue Wamitan et Patrick Jomessi. 2 sénateurs coutumiers sont également présents au Timor oriental. L'actualité judiciaire sur le territoire, 20 ans de réclusion criminelle pour l'homme accusé de viol sur mineur de 15 ans. L'affaire était jugée aux assises depuis hier. L'accusé d'une 50aine d'années était soupçonné d'avoir violé à Nouméa de façon répétée entre 2015 et 2020. Un jeune garçon à peine âgé de 7 ans au début des faits et dont il avait la garde. Initialement, l'homme était au cœur d'une enquête pour détention de contenu pédopornographique et a été repéré par une cyberpatrouille. Et puis la dernière affaire jugée dans cette deuxième session d'assises, demain et lundi, sera une affaire de sang. L'accusé est une femme, elle a asséné un coup mortel sans intention de donner la mort à son conjoint après une dispute qui s'est déroulée à Magenta. C'était dans la nuit du 9 au 10 octobre 2019. L'homme, sous l'emprise de cannabis et d'alcool, aurait tenté de revenir dans l'appartement commun après l'altercation. La femme se serait alors saisie d'une paire de ciseaux avant de lui porter un coup au sternum qui lui sera fatal. Les précisions de Philippe Faisandier, procureur général de Nouméa par intérim.
Il se trouve que les témoins et l'accusé n'ont pas réalisé sur le coup la gravité des blessures. C'est vrai que la plaie n'était pas visuellement très importante, c'était une petite plaie, mais la pointe de la paire de ciseaux a endommagé un gros vaisseau cardiaque et donc il y a eu cette hémorragie un peu à bas bruit mais qui a fini par entraîner une tamponnade et un arrêt du cœur. Ce n'est que quelques heures plus tard que les témoins ont réalisé que la victime, auquel ils avaient d'ailleurs prodigué quelques soins un peu sommaires avec du coton et du désinfectant, que la victime ne bougeait plus, qu'elle était froide. Et à ce moment-là, ils ont appelé les secours, mais c'était trop tard. La victime n'a pas pu être réanimée.
Placé sous contrôle judiciaire, l'accusé encourt jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle. Cette affaire sera donc jugée ce 23 mai, soit demain, mais aussi lundi prochain. Elle clôturera ainsi la deuxième session d'assises de l'année. 2 autres sessions devraient intervenir en 2025. Un déplacement en province nord aujourd'hui pour le haut-commissaire. Jacques Billon a d'abord rencontré les gendarmes de la brigade de Poya avant de s'entretenir avec le commissaire délégué pour la province nord, Gérard Péot. Il s'est ensuite rendu à l'hôtel de province à Koné où il a rencontré Paul Néaoutin. Cet après-midi, le haut-commissaire s'est rendu au RSMA avant de rencontrer les maires de Puebo et de la zone VKP. Il a terminé sa journée par une visite du centre de détention de Koné. Les maires de 11 communes de Nouvelle-Calédonie réunissent ce matin à la fois l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie tenait son assemblée générale, Charlotte Coulson.
Avec à l'ordre du jour notamment l'accueil de la trésorière de la province sud, mais aussi la présentation du festival de cinéma Récif qui se déroulera au mois de novembre et de décembre. Et puis l'AFM a reçu pour la première fois le président du Sénat coutumier, Éloi Goé, qui a présenté certaines propositions formulées par l'instance. Pascal Vittori, le président de l'AFMNC.
Alors c'est le Sénat coutumier qui a demandé à être reçu par l'Association française des maires, puisqu'ils ont des propositions en matière d'avenir institutionnel, mais aussi en matière matière de jeunesse ou des propositions en matière d'urbanisme. Par exemple, une des propositions du Sénat, c'est que les schémas de développement sur terre coutumière soient intégrés dans les plans d'urbanisme directeurs des communes. Alors, on a discuté de ces propositions. Les maires ont expliqué un petit peu leur point de vue, comment certaines propositions pouvaient être prises en compte, mais surtout les difficultés que les maires rencontraient à avoir des projets en terre coutumière ou des difficultés qui pouvaient être rencontrées avec la jeunesse en ce moment.
Une assemblée générale de l'AFM à laquelle a également assisté pour la première fois Elisabeth Rivière, nouvelle maire du Mont d'Or.
Charlotte Coulson.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est donc l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. On démarre avec notre question du jour. Eddy Le Courrieux, a-t-il eu raison, selon vous, de passer le relais à Elisabeth Rivière à la tête de la mairie du Mont d'Or? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, maintenant 96% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent que le dégel du corps électoral doit rester un objectif prioritaire. Ils ne sont que 4% à ne pas partager cette opinion. Merci à vous d'avoir participé à la question opinion. Notez maintenant ces rendez-vous d'antenne sur Radio Rythme Bleu. Les forces de police restent mobilisées en nombre à Nouméa pour assurer la sécurité publique. Elles mènent régulièrement des opérations de contrôle. Quel dispositif est donc en place? Quels sont les retours du terrain? Cela nécessite-t-il une réorganisation des services? Nous en parlerons demain matin avec la directrice territoriale de la police nationale, le contrôleur général Marjorie Ghisoli, qui sera en effet notre invité à 7h30. Et puis c'est Christopher Gigès qui sera demain midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Le membre du gouvernement en charge notamment de l'économie sera interrogé sur la récente conférence sociale et fiscale et sur les suites qui vont lui être données, mais aussi sur la situation socio-économique de la Nouvelle-Calédonie et évidemment sur l'avenir institutionnel. Christopher Gigès, invité de Transparence, est à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. À 17h57, on marque une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire et dans la région.
Cure Essentielle, l'expert des huiles essentielles, s'engage dès aujourd'hui à vous offrir le meilleur du bio au meilleur prix pour votre santé et votre bien-être. En direct de nos producteurs locaux, les huiles essentielles Cure Essentielle sont certifiées 100% bio, pures et naturelles. Cure Essentielle, l'efficacité à l'état pur.
Savez-vous que la pièce qui consomme le plus d'énergie est la cuisine? Pensez à couper l'alimentation de la plaque électrique ou de votre four quelques minutes avant la fin de cuisson, car la chaleur résiduelle permet de terminer la cuisson ou de garder les aliments au chaud.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays. Économisons l'énergie.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La Sidney Fossoir, Léo Fichou.
Les déchets sont des ressources. C'est la conviction de plusieurs chefs d'entreprise et certains d'entre eux étaient vos invités ce midi, Jean-François Baudin, dans les Jeudis de l'économie.
Oui, ils ont créé des entreprises de recyclage et pensent qu'une vraie filière peut se mettre en place. Dernière née de ces entreprises, Pacific Valorisation NC, qui recycle des déchets papiers et cartons pour fabriquer des boîtes à œufs et des contenants pour fruits à peau et à coque. Il y a beaucoup à faire dans ce domaine, a expliqué Franck Olivier, l'un des co-gérants de Pacific Valorisation NC, car la matière première existe et que de nombreux développements sont possibles.
On a cette chance d'avoir du gisement de la ressource en collecte directe ou alors des professionnels nous apportent leur gisement de papier et de carton. Et on a la chance que ce soit du gisement sain. On a besoin d'une qualité de gisement de papier et carton qui permettent de proposer des produits qui sont en pré-contact alimentaire, alors sachant qu'il n'y a pas de normes alimentaires sur les boîtes à œufs et les contenants pour fruits à peau et à coque. Par contre, on est en train de développer déjà une nouvelle solution à partir d'ajouts de produits naturels complètement biodégradables avec un contact alimentaire, une barrière à l'eau et aux graisses et une tenue au frigo de 40 jours. Donc clairement, aujourd'hui, on est déjà en amont et en avance sur ce qui va se faire. Ce n'est pas parce qu'on est isolé dans le Pacifique qu'on ne peut pas se permettre d'y penser et de travailler dessus. Et aujourd'hui, le gisement, il est atteint pour nos volumes. À deux entreprises de transformation de déchets de papier et carton, on a une capacité de traitement de 50% du gisement trié. Donc si le tri supplémentaire se met en place sur d'autres communes, on pourra augmenter les cadences, augmenter les capacités et peut-être aller sur d'autres produits.
Et que ce soit pour le recyclage du papier carton, mais aussi du plastique, du verre ou des déchets organiques, le recyclage peut constituer une filière d'avenir. Elle conjugue respect de l'environnement, économie circulaire, mais peut aussi s'inscrire dans une dynamique de relance économique, puisqu'elle s'avère aussi créateur d'emplois, a expliqué Valérie Tini, gérante notamment d'Isoca et d'Ecopavement.
On ne se rend pas compte au fait de la possibilité de développement au fait du recyclage en Nouvelle-Calédonie, du panel de possibilités de production à base de nos déchets. J'ai un exemple très concret. Ecotrans, il y a une dizaine, quinzaine d'années, proposait en fait le recyclage aux industries à quasiment le double du prix de l'enfouissement. Actuellement, on est 25 à 30% moins cher que l'enfouissement. Ça prouve bien que plus on développe au fait ces filières, plus on peut aplanir les coûts, plus on peut créer des emplois, parce que nous, on a quand même créé entre-temps plus d'une dizaine d'emplois. Et on a une possibilité d'extension et de développement qui est énorme, énorme. Ce sont de la plupart des emplois très peu qualifiés au départ, des gens qui sont formés en fait sur le tard, et ça développe en plus de ça de nouveaux métiers.
Et selon Yves Herbeau, co-gérant de Pacific Valorisation NC, dont il est aussi le directeur du développement, la filière recyclage n'en est qu'à son début.
Le recyclage a plein de solutions novatrices, des nouveaux produits, hein, c'est quand même comme ça qu'il faut l'appeler, recycler pour créer des nouveaux produits, donc c'est une zone de recherche importante. Il y a un point important, c'est la réglementation. On est soumis à un certain nombre de respects de réglementation, ce qui est bien naturel, mais ce qui n'est pas toujours très équilibré, puisque les produits importés ne sont pas forcément dans le même cadre de réglementation. Donc là aussi, il y a un sujet de travail pour non pas harmoniser les réglementations, mais faire en sorte que face à de l'importation, on soit soumis sous les mêmes règles. Donc en permanence, on est en train d'étudier, d'évoluer et de faire bouger nos idées.
Et selon Yves Herbeau, co-gérant de Pacific Valorisation, donc il y a encore beaucoup de travail. Ce sont des extraits des Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu qui sont à retrouver en intégralité sur notre site internet rrb.nc.
C'est un événement qui attire de nombreux prestataires touristiques. Deux journées de formation et d'échanges ont débuté ce matin autour des innovations dans le secteur et dans la région du Pacifique Sud. L'Organisation du Tourisme du Pacifique, SPTO, est une association intergouvernementale dont fait partie la Nouvelle-Calédonie et 19 autres territoires. Ses représentants sont sur le territoire pour deux jours. Ils auront l'occasion de rencontrer les acteurs locaux et partager avec eux leurs connaissances. Le SPTO est présidé par Christopher Cocker.
Nous sommes là pour partager, expliquer qui nous sommes et ce que l'on fait. Tous nos référents de division sont là. Chacun va présenter son travail et comment l'industrie du tourisme en Calédonie peut en profiter. On a quelqu'un qui parle de tourisme durable, de recherche statistique ou encore de marketing digital. Comment le Covid nous a permis d'évoluer vers du marketing online, donc via les réseaux sociaux, ce qui est plus rentable. Tous les pays du Pacifique traversent, tôt ou tard, des crises, que ce soit sanitaire, environnemental ou politique. Mais le secteur touristique est très résilient et le message à faire passer, c'est que la Calédonie est de nouveau prête à accueillir les touristes.
Une quatre-vingtaine de participants ont été invités à participer à ces deux jours de formation, invités par Nouvelle-Calédonie Tourisme, parmi eux des prestataires touristiques locaux, mais aussi des représentants d'institutions ou même des élèves de BTS Tourisme. L'initiative Kiwa fête ses 5 ans. Un comité de pilotage est donc réuni à Nouméa pour les deux prochains jours afin de faire le point sur les axes de développement. Jean-François Bonin.
L'initiative Kiwa est un regroupement régional qui vise à lutter contre les effets du changement climatique. La France, via l'AFD, mais aussi l'Union européenne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada financent une trentaine de projets concrets portés par les populations sur le terrain. Virginie Blétrac est la directrice régionale Océan-Pacifique de l'AFD.
La France a été vraiment porteuse du projet, mais on travaille tous main dans la main. Dans le budget, la moitié du budget est portée par la France parce qu'elle y croit beaucoup. La préservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique est une priorité pour nous dans l'espace pacifique. La défense du climat à l'échelle internationale, c'est un point fort de la diplomatie française. C'est dans l'ADN de l'AFD au niveau global. Et l'autre raison, c'est que nous sommes convaincus que l'espace pacifique est aussi une source d'inspiration vraiment pour pouvoir mieux aussi monter des projets ailleurs dans d'autres régions. Typiquement, on va faire en sorte, par exemple, que l'initiative Kiwa soit la plus visible possible à l'UNOC, qui est le sommet des Nations Unies sur l'océan, à Nice, en juin, parce que certains des projets Kiwa sont vraiment concentrés sur les communautés côtières et la pêche durable, et on voudrait faire entendre les voix du Pacifique à l'UNOC.
Deux nouveaux projets ont été présentés, Women's Work en Micronésie et Résico pour les îles Loyauté et neuf îles du Vanuatu. Un projet porté par l'IAC pour 400 millions de francs sur 3 ans. L'objectif est d'améliorer la sécurité alimentaire des populations des îles, ce qui passera par une lutte contre les nuisibles et l'échange de plantes qui passeront dans des serres de quarantaine pour éviter l'introduction d'espèces invasives et nuisibles. Laurent Lhuillier, le directeur de l'IAC, rappelle que la génétique est un enjeu important.
Dans le Pacifique, traditionnellement, beaucoup d'espèces sont consommées de manière traditionnelle et sont multipliées par voie végétative. Bananiers, choux canac, tubercules, plantes à tubercules. Donc voie végétative, c'est-à-dire que ce n'est pas une graine au départ. Et quand on multiplie par voie végétative, le génome, le patrimoine génétique est toujours le même. Donc au fil des siècles, voire des millénaires, on a toujours une base génétique qui est à peu près la même. Donc si on n'introduit pas de nouvelles diversités génétiques, on prend le risque que cette diversité cultivée actuellement n'est peut-être pas bien adaptée au changement climatique à venir. Donc on sait que pour mieux s'adapter face au changement et à toute pression, hein, dont le changement climatique, une des clés, c'est la biodiversité et une plus grande biodiversité. Donc on ne va pas forcément introduire de nouvelles espèces, ça sera peut-être de nouvelles variétés de tubercules, de patates douces par exemple, mais des nouvelles variétés avec une nouvelle diversité génétique.
Résico est le 5e projet du programme Initiative Kiwa déployé en Nouvelle-Calédonie.
RRB 18h06.
À l'heure de faire le point sur l'actualité dans la région, on démarre dans les airs puisque Air New Zealand va reprendre ses rotations avec la Nouvelle-Calédonie. La compagnie avait suspendu ses vols jusqu'au 25 octobre en raison des émeutes, mais bonne nouvelle, ils reprendront dès le 1er novembre avec une rotation chaque samedi entre Tontou et Auckland. D'ici là, une deuxième rotation pourrait même voir le jour. Ces vols viendront se rajouter au programme d'Air Calin qui propose en moyenne 2 rotations par semaine. Et dans un communiqué publié cet après-midi, Alcide Ponga, président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, se félicite de ce retour, rajoutant que, je cite, « cette liaison d'Air New Zealand renforcera les efforts menés dans le cadre de la politique de diversification économique et d'intégration régionale portée par le gouvernement ». Fin de citation. En Australie maintenant, dans l'état de la Nouvelle-Galles du Sud, un mort est à déplorer dans les graves inondations qui sont le résultat des pluies torrentielles de ces derniers jours. Les précisions de notre correspondant Jean-Pierre Zajac.
Le corps sans vie d'un homme de 63 ans a été découvert dans sa maison inondée, non loin de Taree, une ville de 30 000 habitants qui a elle-même été submergée par les flots boueux de la Manning River qui l'arrose. Tout au long de la journée d'hier, des hélicoptères y ont secouru des dizaines de personnes qui s'étaient réfugiées sur le toit de leur maison. Tous les fleuves et rivières qui se jettent en mer du nord de Sydney à la frontière du Queensland sont en crue et un statut de catastrophe naturelle en a résulté. 50 000 habitants de la région sont isolés et 400 000 y sont sous l'effet d'un ordre d'évacuation. Des centres d'accueil ont été improvisés un peu partout et ont déjà hébergé des centaines de sinistrés. Le réseau routier est impraticable à cause des inondations et les services d'urgence ont traité près d'un millier d'appels à l'aide rien que ces dernières 24 heures. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
On marque une seconde pause dans ce journal avant de parler sport et de cette commission des athlètes lancée par le CTOS de Nouvelle-Calédonie.
Gédimat, 51 rue Hoover à Ducos, c'est le partenaire des pros et des particuliers. Peinture, lasure, revêtement de sol et mur, salle de bain, produits techniques, étanchéité, électroportatif et quincaillerie. Gédimat, 25 98 84 ou sur Facebook, Gédimat Nouméa.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
RRB,
Première radio d'information.
La suite du journal et c'est du sport, Léo Fichou.
Oui, du sport et cette nouvelle ère, nouvelle voie également pour les sportifs calédoniens. Le CTOS lance la commission des athlètes composée de 8 figures emblématiques du sport local, notamment Titouan Puyo, Harmonie Connue, Axel Raymond ou encore Demi Dabin. Une commission qui constitue un espace de dialogue dont l'objectif est de faire des propositions et de mener des actions au service des sportifs du territoire. Première initiative, le coup de cœur chaque mois en complément de l'athlète du mois BNC. Une action ou une performance réalisée par un athlète calédonien sera mise en avant sur les réseaux sociaux du CTOS. Après Esther Wejiem, c'est la lanceuse Leslie Filitu-Alaga qui a été mise en lumière ces dernières heures pour sa médaille d'argent par équipe avec l'équipe de France des moins de 23 ans. C'était à la Coupe d'Europe, des lancers. Après le sport sur Radio Rythme Bleu, vous en avez l'habitude, on passe à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Après la pluie de ce matin, le soleil cet après-midi. Dites-nous tout pour les prochaines heures, Nicolas.
Oui, alors cette nuit, les passages nuageux reprendront l'avantage sur l'est et la pointe sud et dans une moindre mesure aux Loyautés. Sur les autres régions, la nuit sera bien étoilée. Le vent sera de secteur est, de 5 à 10 nœuds, voire 10 à 15 nœuds sur l'extrême nord. Il sera localement variable et faible sur l'ouest. Les températures de la nuit varieront de 18 à 20 degrés dans l'intérieur et aux îles. Demain matin, malgré quelques cumulus présents sur les régions de l'est sur la chaîne et aux Loyautés, un temps ensoleillé prédominera. L'alizé de sud-est soufflera généralement entre 5 et 10 nœuds, Léo.